Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM et dans votre émission des livres et des livres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Bénédicte Giusti. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Marie.
Ravissante.
Pour une fois, merci.
Comme à l'accoutumée. Et puis Christophe Laurent est avec nous. Bonjour Christophe Laurent.
Bonjour Marie. Bonjour Bénédicte.
Je n'emploierai pas le terme ravissant, mais plutôt bestial ou animal, je ne sais pas, j'hésite. Soyez les bienvenus, nous allons parler du livre de Jean-Luc Coatailem. Coatailem, j'y arrive. Ce livre était dans le dernier carré du Goncourt, mais finalement n'a recueilli pour l'instant aucun prix. Il est publié chez Stock, ça s'intitule
« La poule d'or
part du fils ». Alors vous me prenez mes expressions, bravo.
C'est vrai.
Mais c'est un peu le Poulidor, en effet, de la littérature.
J'ai posé une page.
On vous parlera également d'autres découvertes que nous avons pu faire, des livres aussi que nous avons reçus et que nous sommes en train de lire. Mais là, tout de suite, voici le synopsis de ce bouquin, le livre de Jean-Luc Coatailem. C'est difficile à dire. Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paul, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère, en Bretagne. Motif inconnu. Il sera conduit à la prison de Brest, incarcéré avec les terroristes, interrogé. Puis ce sera l'engrenage des camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l'en faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vent et de lande, on ne parle pas du malheur des années après. Et là, c'est l'auteur qui parle. J'irai, moi, à la recherche de cet homme qui fut mon grand-père, comme à sa rencontre. Est-ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou dans les registres des archives, je l'inventerai pour qu'il revive. Alors, lorsqu'on lit ce synopsis, cela nous fait penser, Bénédicte, à un livre que vous aviez lu pour nous, qui était dans la liste du Goncourt et que vous n'aviez pas aimé, ouais. Alors que les critiques étaient plutôt sympathiques.
Oui, c'était
Le ghetto intérieur
d'Amigo Reyna.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est très similaire, puisque dans les deux, il s'agit donc de lever une sorte de secret familial, de reconstituer l'histoire de sa famille, parce que Coatailem se heurte comme ça au silence de son père, qui ne veut pas parler de ce grand-père. Et du coup, c'est comme si il n'existait pas. Et on sent que c'est douloureux pour Coatailem. Et donc, il va avoir besoin
comme
de
faire
vivre... Comme vous
descendez bien ce nom.
Hein
Coatailem, il faut le dire rapidement, en fait.
Et il a besoin donc de faire vivre, de faire exister ce grand-père. Il a besoin de réintégrer celui qu'il appelle cet inconnu familier dans l'histoire de la famille. Et on sent que c'est un besoin très particulier parce que Coatailem en a besoin aussi pour se construire d'une certaine façon lui-même. Donc le point de départ de ce roman, c'est le secret, le silence.
Et peut-être moi, même pour se reconstruire,
oui,
si je peux me permettre.
Voilà, vous avez raison. Ouais. Et tant mieux, parce que moi j'adore ce genre de projet. Et beaucoup de romans sont faits, à mon avis, justement pour faire revivre ou vivre les fantômes et pour combler les vides.
Et puis, il y a autre chose, si je puis me permettre, qui peut résonner chez nous en Corse, c'est que Coatailem est né à Paris. C'est un journaliste, un auteur. Il a vu le prix Femina, d'ailleurs, pour un essai. Il est originaire de la Bretagne.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas vécu. Et on sent aussi qu'il y a cette volonté de réappropriation de sa terre.
Et oui, et ça, et on sent qu'il en a... Alors, moi, je n'ai pas du tout été convaincue par le roman. Moi, le premier gros problème a été celui du style, et j'avoue que ça m'a empêché d'entrer pleinement dans cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, il y a de vraies lourdeurs grammaticales et syntaxiques, parce que c'est le roi de la virgule, mais c'est pas forcément le roi de la phrase complexe. Donc ça pose un petit problème. Et à côté de ça, il a parfois des formules extrêmement simples, pliste, j'ai envie de dire, qui sont là pour
quelques anaphases,
où il veut, on sent, voilà, pour en envoyer, pour des formules percutantes, etc. Et alors, moi, je les trouve seulement mollassonnes. Donc ça m'a déjà posé un problème. Alors, vous parliez des descriptions de la Bretagne, et je suis d'accord, on sent qu'il en a besoin, parce qu'il veut réintégrer aussi ce grand-père dans sa terre d'origine. Mais là, le problème, c'est que pareil, moi, les descriptions de la Bretagne...
Oh, j'ai adoré.
C'est complètement insensible. J'ai trouvé souvent à rater. Et pourtant, j'avais envie d'y croire. Il y a le mélange de fiction...
J'ai adoré son écriture aussi.
Ah oui, écoutez. Mais c'est bien. Alors, ensuite, parce qu'il le revendique et il y a une postface, etc., ça reste un roman. Et là encore, le mélange de fiction et de réalité, moi j'adore ça. Et parfois je crois en plus que la fiction peut dire bien plus de vérité que la réalité.
Pensez-vous que comme là... chez Amigorena, il ne l'a jamais rencontré finalement ce grand-père ?
Ah ben moi oui, je dirais que la rencontre est ratée.
Ouais.
Moi ici, ça ne fonctionne pas. Je porte pas de jugement sur ce qu'il fait ou sur son projet. Ouais. Pourquoi pas en faire un roman? Mais ça ne fonctionne pas. Son problème aussi, c'est que c'est souvent très didactique. C'est-à-dire, il se sent toujours obligé
très journalistique
de préciser ses intentions. Que pouvais-je faire de plus nécessaire que de le ramener à la lumière et tenter de nouer ce dialogue avec lui? Il est toujours dans l'explicitation du projet. C'est pas la peine. Il veut faire vivre ce grand-père. On a envie de lui dire, voilà, faites-nous le vivre devant nos yeux. Faites qu'il soit incarné, fait qu'il existe. En plus, il écrit, alors ça m'a considérablement gênée, il écrit « Paradoxalement, ce manque original de récit familial, ce trou généalogique aura fait de moi un écrivain. » Ça n'a rien de paradoxal. Au contraire, c'est parce qu'il y a ces manques, parce qu'il y a ces failles, parce qu'il y a ces trous et ces béances, à mon avis, que l'on devient écrivain.
Non, c'est paradoxal parce que comme il a le sentiment qu'il y a un trou, qu'il y a un vide dans sa généalogie et dans l'histoire de sa famille...
Il a besoin d'écrire.
Il dit, je n'ai pas de mots, et paradoxalement, je deviens écrivain. C'est ça qu'il veut dire dans cette phrase.
Il veut dire qu'il veut trouver les mots pour.
C'est ça.
Mais moi, je peux l'entendre. Pour moi, c'est presque une définition de la littérature. Bon, après, c'est une phrase. Alors, il y a une construction assez éclatée.
Mais je vous suis, en même temps, je le comprends.
Ouais.
D'où le paradoxe.
D'accord.
Ben ouais, c'est drôle.
Voilà, moi, la construction très éclatée, je trouve ici qu'elle n'est pas forcément maîtrisée et qu'elle ne fonctionne pas. Alors, en revanche...
C'est également un roman fragmentaire, ça fait beaucoup.
Oui, ça commence à faire beaucoup,
c'est-à-dire
il y a
tout ce qu'on lit.
Il y a ça aussi.
Ouais.
Alors, en revanche, j'ai bien aimé les 60 dernières pages quand il est vraiment dans le côté plus historique. Et là, ça m'intéressait, c'est une partie qui commence avec cette histoire que j'ai trouvée fabuleuse, réelle.
Tout le résultat de ses archives et de ses recherches.
D'un certain Camille de l'Étangue, qui dans un camp satellite de Bourgneval a utilisé comme support tout ce qu'il pouvait trouver, et il a dessiné les visages de ses co-détenus. Et il y a une liasse comme ça qui a été perdue, enfin non, pas perdue, qui a été volée. Mmh. Et il y a un homme qui a gardé cette liasse, mais pendant plus de 80 ans, et on a retrouvé le visage de ces détenus. Bon, ça voilà, il y a quand même
très
parfois,
émouvant.
Ça j'ai trouvé formidable. Mais là encore, et puis dans les camps, quand il va visiter le camp, il y a des choses aussi qui sont évidemment touchantes. Mais là, toujours pareil, il va en rajouter en disant « J'étais venu non pas pour le faire renaître, mais pour lui rendre un peu de son identité. » On l'a compris, ça.
Ouais.
Et ça, moi, je lui reproche ce côté très très
de
très
se justifier
oui,
en permanence,
dire, voilà, non,
d'être didactique.
Faites-le et
ouais.
voilà.
Bon, vous lui reprochez également, vous l'avez dit en tout début d'analyse, des problèmes stylistiques.
Ah oui,
voilà. Ça, c'est...
Ah oui, moi ça m'a profondément gêné.
Bien que les lecteurs le sachent, moi je ne l'ai pas vu, je passe à côté. Mais c'est bien que vous, le professeur de lettres, vous le disiez, quoi.
Ah, c'est important. Moi, je trouve qu'il y a des phrases là qui sont mal construites, mal fichues. Voilà, mal fichues. On peut, les phrases très longues, c'est compliqué.
Moi, j'ai été complètement embarquée. Mais complètement, j'ai adoré l'écriture de Jean-Luc Coitalem, même si je n'arrive pas à prononcer son nom. Je n'y arriverai jamais, mais il y a des choses comme ça.
J'y arrive pas,
je croisse et ça devient compliqué. Pardonnez-moi, cher Jean-Luc. J'ai adoré, même si je vous ai dit, quand je vous ai proposé ce livre, il y a quelque chose de l'ordre, de l'académisme et du classicisme qui peuvent être un petit peu gênants dans la lecture, qui nous laissent parfois à côté. Mmh. On sent qu'il a voulu bien faire. On sent le bon élève.
Ouais.
On sent vraiment...
L'application,
que ses archives, que ses recherches, il s'est appliqué, il y a pris du temps. C'était important pour lui, peut-être trop important. Mmh. D'où les justifications sans cesse tout au long de ce livre. Mais il n'empêche que la Bretagne, en plus je connais très très bien ce coin, je trouve que c'est admirable... À l'inverse de vous, la façon dont il décrit cette Bretagne, ça m'a beaucoup beaucoup émue. L'histoire, eh bien moi, elle me touche tout le temps, cette histoire-là. Alors peut-être que du coup, je suis pas objective.
Mais non, mais moi aussi, c'est le genre d'histoire.
C'est une histoire qui m'embarque.
Celle d'Amigorena, je trouve ça, parce qu'il y a quelque chose. Vous vous rendez compte, en 43. Il disparaît et ça, c'est terrible. Et ça, il le dit très bien. Motif de l'arrestation.
Inconnu.
Ouais. Voilà, c'est terrible.
Et je trouve que vous en parlez très bien.
Oh.
Non, mais c'est vrai, même si vous ne l'avez pas vraiment aimé, je trouve que vous en parlez très bien. Et le fait que vous en parliez très bien me fait dire qu'il y a des qualités quand même dans cet ouvrage. Sinon, vous ne prenez pas le temps d'en parler avec... Ou alors, c'est que vous voulez me faire plaisir parce que vous savez que je l'ai aimé. C'est aussi possible. Vous, mon cher Christophe, vous êtes resté un peu à côté aussi.
Je suis resté un petit peu à côté, ouais. Mais je vais pas charger la barque puisque Bénédicte l'a fait suffisamment.
Mais moi, pourquoi on l'aime bien ?
Il y a
quelque chose... On l'aime bien, ce garçon. Je sais pas pourquoi.
J'ai pas encore dit ça. Je trouvais la démarche très très noble. Très très noble.
Oui.
Et tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, moi, me passionne. Donc même si, c'est pas mal raconté, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, à partir du moment où vous évoquez tout ce qui s'est passé dans les années 40 en France, moi j'accroche immédiatement et j'ai énormément aimé tout ce qui est développement sur le camp de Dora, assez peu connu historiquement. Donc personnellement, ça m'apporte beaucoup de savoir ce qui s'est passé exactement sous terre, toute cette usine pour construire les V2. Il y a aussi un passage sur Von Braun.
Ah oui.
Et j'avais déjà vu, cet été, on a eu quelques documentaires sur l'alunissage, le premier alunissage, donc les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, et on parlait de Von Braun. Et j'avais trouvé ça formidable de savoir qu'un type qui avait un nazi qui avait balancé des V2 sur l'Angleterre, sur la France, finalement s'était retrouvé aux États-Unis. Je trouve que c'est une pirouette de l'histoire. Ça s'en dit beaucoup sur les hommes, sur la politique. Donc ça me passionne. Après, c'est vrai que je suis pas amateur de ce style. Je trouve ça tellement français. Excusez-moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai une habitude anglo-saxonne, mais quand on m'en parle de violence comme ça, moi je veux que l'auteur mette ses tripes sur la table. Je veux qu'il se vide complètement. Là, j'ai pas l'impression qu'il se vide. Il fait des feintes. Il essaie d'enjoliver certaines choses. On en a parlé cette semaine ensemble. Quand il dit, par exemple, l'armée de terre, l'armée de terre.
Oui.
Moi, je suis désolé. Ce sont des réflexes de journaliste. C'est dans un titre de Libé, ça me va très bien. Mais dans un roman
ou de Géo, il a travaillé longtemps au magazine Géo.
Peut-être. Non, mais c'est ce que je veux dire, ce sont des clins d'œil journalistiques. Ça doit pas rentrer en compte dans la littérature. Vous faites un petit jeu de mots, vous faites une facilité. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est quoi ? C'est de l'émotion brute. C'est pas un style raffiné ou quoi que
c'est
ce soit.
C'est de la sincérité.
Là, ouais. Là, on parle de Deuxième Guerre mondiale, on parle de Buchenwald. N'allez pas enjoliver les choses avec un style de, j'allais dire presque de gonzesse, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais
un style un peu classique.
Ne rendez pas les choses belles quand vous parlez d'une chose, d'une affaire comme ça. Moi, ok, la Bretagne, c'est bien joli.
Pareil, quand il dit que le frère du grand-père est parti en Angleterre en 40, il dit...
Non, c'est le frère du père.
Le frère du père, oui. Le fils. Et qu'il dit, voilà, ils allaient connaître une aventure épatante. Alors, il explique en disant, parce qu'ils ont connu la folie de la grande ville de Londres, etc. Bon, épatante,
ça vous choque,
c'est pas l'adjectif qui me semble convenir le mieux.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Bénédicte, sur parfois la lourdeur de certaines phrases, alors même au niveau grammatical et syntaxique... Bon, moi, bien sûr, je ne l'ai pas vu.
C'est un véritable scanner, Bénédicte.
Oui, mais elle a raison. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle est dans ce casting. Moi, je ne risque pas de faire ça.
Il
a parfois des phrases très, très longues. Et c'est un art délicat.
Très.
La très longue phrase.
Surtout quand il y intègre, comme il aime le faire, qui n'est plus du tout nouveau. Le dialogue, il intègre parfois des... Voilà.
Mais pourtant, parfois, ça a son charme.
Parfois, ça fonctionne, mais bien sûr.
Je peux vous lire un petit extrait. C'est un été sur la péninsule armoricaine. Qu'importe qu'il pleuve, qu'il vente, les éclaircies sont généreuses. Ils se baigneront dans la Darse où ils iront explorer pour la 100e fois la grotte absinthe qu'il faut forcer avec le flux pour rejoindre ses entrailles. Un théâtre de reflets qui s'ouvre sur 30 mètres de large. Là aussi, voilà un secret. Le secret des falaises. Il règne dans cette cavité une semi-obscurité. L'eau y est fraîche, les voix résonnent, les respirations font de la buée entre les parois. Et alors que les jambes ne sont plus que des pointillés mobiles, ils ont la sensation d'être immergés dans l'instant même, pris dans le miel des photons et des reflets, autant dire l'éternité de Kergat. Moi j'adore.
C'est de la triche parce que vous avez une belle voix et vous lisez très bien. C'est un peu de la triche quand même.
Bon, ça continue, hein, c'est hyper beau. C'est une Bretagne qui ne changera pas, un pays d'enfance, où il y aura toujours la flottille des bateaux, les cageots de maquereaux sur le môle, parfois un couple d'espadons et une fratrie de pieuvres emmêlées, la forêt des pins, ces criques qu'il faut atteindre en se laissant glisser par une corde, une baie où l'été lui-même vient se reposer, immuable, en même temps qu'eux dans cette presqu'île qui est comme une île, et ces cinq-là sont à part sur la broderie des Landes, presque intouchables, du moins le croit-il, jusqu'au début de la guerre, avant que ne viennent les heures acérées, les heures mauvaises, celles qui blessent et tuent. Ouais, non, mais c'est quand même pas mal.
Oui, on tombe un petit peu dans la carte postale.
Oui, mais non, mais vous voyez pas vous-même, je sais pas, dans les calanques de Marseille, ou moi dans le Cap Corse, au Capel, je trouve que là c'est sincère. Vraiment.
Je n'ai pas dit que ce n'était pas sincère. Ouais, je trouve qu'on tombe dans la carte postale.
Ouais. Bon. Et parce que vous savez, un autre souci, c'est-à-dire que moi, là où j'ai vraiment eu du mal, c'est qu'il a quand même eu quelques réponses. Par exemple, il sait très exactement comment s'est passée l'arrestation de son grand-père. Mais il va plusieurs fois revenir sur le fait qu'il a imaginé ça comme une arrestation très violente. Sans doute a-t-il été, il imagine qu'il a été torturé, etc. Et apparemment,
bon, il ne le sait pas exactement. Il a quelques éléments.
L'arrestation, il sait très exactement comment elle s'est passée. Ouais. Après, évidemment, ce qu'il y a eu, et on imagine bien que ça n'a certainement pas été une partie de plaisir. Ça n'enlève rien à l'horreur.
Mais pas du tout. Voilà. Non, pas
mais,
du tout.
Ça mais c'est vrai qu'en fait, et là, quand il a eu les réponses, il est moins bon. Et quand il reste vraiment dans le fait de devoir combler des vides et d'imaginer, de temps en temps, oui, ça fonctionne quand même. Oui. Je l'ai largement préféré, attention, à Migorena, enfin au ghetto intérieur, ça n'a rien à voir. Donc, voilà.
Jean-Luc Coitalem, La part du fils, c'est chez Stock. La couverture est très belle également. Voilà, je le dis, ça n'apporte pas grand-chose, mais quand même... C'est une très belle couverture.
Je voulais dire que le meilleur livre en langue française que j'ai lu cette année, c'est celui de Laure Limongi. Voilà, après tout ce que vous m'avez fait lire...
C'est drôle parce que dernièrement dans la rue, on m'a interrogé. On m'a dit, est-ce que tu as un livre français à me conseiller ? Et pourtant, je venais de finir celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Et ben, spontanément, j'ai dit, écoutez, pour moi, c'est le Laure Limongi.
C'est pas du copinage quoi que ce soit, c'est juste que... C'est le
oui, parce qu'on le dit à nos auditeurs, elle est bastiaise, c'est pour ça qu'on pourrait nous taxer.
C'est le livre qui m'a le plus touché, finalement. Ouais. C'est le livre que j'ai le plus apprécié pour son écriture, même si j'avais quelques réticences. Mais avec tout ce que l'on a lu, excusez-moi, mais...
Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas lu celui dont je vous parlerai la semaine prochaine.
Ah, d'accord.
Mystère.
Le titre de Laure Limongi, On ne peut pas tenir la mer...
Entre ses mains,
c'est magnifique. Hein.
Très beau.
Est-ce que vous avez des petits conseils Alors celui-ci, vous ne le conseillez pas, il n'y a que moi qui vous le conseille. Hein. Jean-Luc Coitalem, La part du fils chez Stock. En ce qui me concerne, vous pouvez le lire.
Je ne vais pas dire que c'est un mauvais livre, attention.
Non, mais vous ne le conseillez pas, vous en conseillez d'autres. C'est pareil pour vous, Bénédicte.
Je ne le conseille surtout pas, je ne conseille pas.
Voilà, ça va, une fois ça suffit. Hein. C'est important, Bénédicte Jousse, il ne conseille pas cet
ouvrage. Ça va changer la face du monde.
L'histoire de Paol, ça ne l'intéresse pas. Quelques lectures autres à nous conseiller.
Qui n'a absolument rien à voir, mais moi je voudrais quand même vous dire juste un mot sur le dernier Jackie Schwartzman. Pyongyang 1071. Alors moi j'avais lu Demain c'est loin qui vous racontait l'histoire de François Feldman, qui n'est pas le chanteur. J'avais un nom de juif et une tête d'arabe, mais en fait j'étais normale. Christophe Laurent nous avait brillamment présenté Pension complète, l'histoire complètement délirante de Dino qui était amoureux d'une femme qui avait 32 ans de plus que lui et qui était accessoirement très très riche. Et donc Pyongyang 1071 est le premier texte autobiographique de Jackie Schwartzman. Qui raconte comment, au cours d'une soirée créole, il fait des soirées créoles apparemment, il a décidé de faire le marathon de Pyongyang en Corée du Nord. Donc ses romans étaient complètement fous, et on pouvait mettre ça sur le compte de la folie créatrice de l'écrivain. Bon, mais on découvre ici que l'homme également est complètement fou. Il vous explique qu'il aime depuis toujours voyager dans les dictatures. Et donc il va véritablement, et il a fait ce marathon, donc de 42 km et quelques, en Corée du Nord. Alors, Il va vous raconter comment il s'est entraîné, lui qui est pourtant pas un baroudeur, qui est un hyper citadin, qui fait plus trop de sport depuis quelques temps. Et une fois donc son coming out nord-coréen fait, le voici qui va devoir partir en Corée pour faire ce qu'il appelle son Truman Show version 1984. Alors comme toujours, moi chez Schwarzman, c'est dur à dire ça aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Il a un sens de la formule.
Et, j'imagine les auditeurs se disant mais pourquoi ils font de la radio, ça les arrive même pas à prononcer le nom des auteurs.
Jackie Schwarzman.
Désolée.
Donc c'est très drôle, c'est malin, c'est intelligent. Et vous savez, cette intelligence vive qui fait que voilà, qui ne se la raconte pas. Il a pas peur de l'humour.
Ah, il se la raconte pas parce que quand il court vraiment là.
Il morfle,
il laisse trois poumons.
Et si vous voulez, ça permet un peu d'humour un peu potache. Il y a beaucoup d'autodérision. Et en même temps, comme ça, il distille quelques vérités sur notre monde. Et parfois, là aussi, mais très délicatement, parce qu'il est fou, mais il est sans doute extrêmement timide, il y a de très jolies choses sur le couple, sur la famille. Donc, il ne vous donne pas envie d'aller en Corée du Nord, hein, pour autant, mais il vous fait aimer, en tous les cas, le récit de voyage. Et après, voilà, même quand il parle de son père, il y a un portrait. On comprend, il a des excuses, il est un peu fou, parce que quand il vous parle de son père, il vous dit, voilà, il a un petit côté lunaire, nous sommes 5 enfants, et il nous a tous oubliés quelque part, au moins 800 fois. Voilà. Donc, ça fait du bien, parce que c'est drôle et c'est intelligent, et voilà, il me reste, pour être tout à fait honnête, hein, il me reste les 30 dernières pages.
Ce sont des conseils de lecture. Voilà. Nous sommes en cours de lecture. Ça s'appelle
Pyongyang 1071.
Édition Paulsen.
Édition Paulsen, très important, effectivement.
Quant à vous, Christophe Laurent?
Ben, ça tombe très bien, puisque je vais rebondir sur Jackie Schwarzman et sur les auteurs qui nous font rire et qui nous font sourire, avec Franz Bartelt, qui a sorti « Ah, les braves gens au seuil ». Franz Bartelt, il avait fait l'Hôtel du Grand Cerf il y a 2 ans, qui a eu un prix parce que l'écrivain, qui a 60 ans, je crois, à peu près, qui a une quinzaine de romans à son actif. C'est un peu l'héritier de Frédéric Dard.
Grand Cerf.
Qu'est-ce que c'est ? Donc, les braves gens, grosso modo, c'est l'histoire d'un fils encore qui enquête sur la dernière mission de son père qui était une sorte de voyou et qui avait fauché un tableau, mais il y a eu une grosse embrouille et le tableau s'est retrouvé dans le village de Puffigny. Alors, on est dans Groland, il se moque gentiment du fin fond de la France, mais c'est très très drôle. Je vous lis juste les deux premières phrases.
Bien volontiers.
C'est à l'enterrement de mon oncle Georges que j'ai appris que mon père avait accompli une impeccable carrière de tueur. D'après le peu que j'en sache, il serait mort de sa belle mort dans son lit, comme un général, je ne l'ai pas connu. Voilà, c'est d'un tonneau extraordinairement drôle. Et je vous le conseille parce que c'est pas si fréquent d'avoir des auteurs avec lesquels on se poêle.
Allez, moi je vous parle d'une auteure corse, autrice.
Moi, je déteste le mot, mais il faut le dire. Enfin, on peut le dire.
D'une autrice corse, moi, je le dis. Dominique Mehm, elle est romancière et elle est écrivain jeunesse. Elle a fait paraître beaucoup, beaucoup d'albums pour la jeunesse. Et un roman, son premier roman, Retour à Moiden, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. La base du sujet étant un secret de famille, notamment avec la guerre d'Algérie. Et elle avait enquêté. Et franchement, le livre était très, très émouvant. J'avais fini cette lecture complètement en larmes. Ah. Donc là, oui, vraiment, là, elle vient de faire paraître un nouveau roman qui s'intitule Le Voyage de la Fanfare. Je viens à peine de commencer, donc je ne peux pas vous parler de la qualité du bouquin. C'est chez Brochet, mais je suis assez curieuse de découvrir. Le synopsis, c'était une invitation officielle, une invitation impériale. La lettre avait traversé le continent africain pour arriver jusque dans ce bureau et l'inviter, lui, le maire de cette petite ville corse, ainsi que toute sa fanfare. Le miracle avait eu lieu. Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, les voulait pour le premier anniversaire de son sacre. Voilà le nouveau roman de Dominique Mehm. Ça s'appelle Le Voyage de la Fanfare et c'est chez Brochet. Oui.
Je voulais dire encore une petite chose. Il y a Stéphane Michaka, je vous en avais parlé, qui avait fait une adaptation de Moby Dick avec l'orchestre de Radio France. Je l'ai écouté. C'est prodigieux, ça dure 1h15. Il a dû évidemment un peu couper dans Moby Dick, mais franchement, c'est vous mettez ça en podcast, ça dure 1h15, c'est incroyable, c'est incroyable.
Eh bien, merci très bon. Christophe Laurent.
France Culture, le service public.
The Killer Inside Me, c'est son blog. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les lectures de Christophe et même sur son intimité propre. quant à Bénédicte Giusti, on l'a encore bien en forme et vous savez, plus l'année va s'écouler, plus elle va se rapprocher des examens et plus ça va être compliqué de la voir dans son entièreté. Donc on la remercie d'être encore là et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à podcaster l'émission pour l'écouter comme vous le désirez, dans votre bain nu ou dans votre voiture ou le soir au coucher ou au coin du feu avec votre famille. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Dans
merci
un
Marie.
Instant, nous retrouvons bon, Sapiens.
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour, et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour des magazines, elle travaille en usine à Créteil.